Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Au Touélé, les services de sécurité toujours à la recherche des 70 détenus évadés depuis vendredi de la prison centrale de Ouacha. Selon des sources locales, plusieurs d'entre eux sont condamnés pour des faits graves. Face à cette angoisse, les acteurs de la société civile appellent la population à faire preuve de vigilance. Pas de rentrée scolaire sans paiement des arriérés. Au Nord Kivu, les inspecteurs de l'enseignement de la région de Beni, Butembo et Lubero sont catégoriques et ils menacent même de boycotter l'année scolaire 2026-2027 si leurs revendications ne sont pas prises en compte. L'invité de ce journal est Maître Soudi Alimasi Kimputu, juriste et spécialiste des questions de gouvernance locale. Avec lui, nous parlerons du fonctionnement des entités territoriales décentralisées, leur rôle dans le développement local ainsi que des défis auxquels elles sont confrontées. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal. Nous vous remercions d'avoir choisi la radio de la paix pour avoir une information vraie et traitée avec professionnalisme. Nous commençons ce journal par ces dossiers judiciaires. Les services de sécurité toujours à la recherche des 70 détenus évadés depuis vendredi de la prison centrale de Ouacha. Selon des sources locales, plusieurs d'entre eux sont condamnés pour des faits graves et leur présence présumée dans la communauté de cette partie de la province de Haut-Touélé suscite inquiétude et interrogation dans la région déjà confrontée à l'insécurité liée aux activités des groupes armés, notamment les ADF. Face à cette angoisse, les acteurs de la société civile appellent la population à faire preuve de vigilance et demandent aux autorités de renforcer les dispositifs de sécurité. Isaac Remoyope, reportage.
C'est aux environs de 16h vendredi que 70 détenus se sont évadés de la prison centrale de Ouacha dans la province du Haut-Touélé. Selon la société civile locale, les évadés auraient profité de l'ouverture des portails aux visiteurs pour maîtriser un agent pénitentiaire avant de prendre la fuite. Parmi eux figurerait une quinzaine de détenus condamnés pour détention ou utilisation illégale d'armes. Selon les mêmes sources, cette évasion alimente les inquiétudes des habitants de Ouacha, une région déjà confrontée à des actes de banditisme attribués à des hommes armés non identifiés. Le territoire fait également face à une insécurité persistante liée à la présence signalée des combattants présumés des ADF dans les environs de Mumbere. Cette situation a déjà provoqué le déplacement des milliers de personnes. Face à ces contextes, les acteurs de la société civile demandent aux autorités de renforcer les mesures de sécurité afin de protéger les populations et de retrouver les détenus en fuite. Ils invitent également les habitants à signaler sans délai au service de sécurité toute personne ou tout comportement suspect pouvant contribuer à l'arrestation des évadés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Puisque nous parlons prison, notez que la journée internationale Nelson Mandela a été célébrée hier samedi 18 juillet et la prison centrale de Bounia n'était pas en reste. Entre joie et espoir, les détenus de cet établissement pénitentiaire ont aussi commémoré cette journée hier samedi dans les chefs-lieux d'Elitouri. Au menu, une journée porte ouverte organisée par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Objectif, promouvoir les valeurs défendues par cet ambassadeur de la paix que fut l'ancien président sud-africain, notamment le respect de la dignité humaine. Par ailleurs, les pensionnaires ont bénéficié des consultations médicales gratuites ainsi que des kits hygiéniques pour les femmes détenues. Reportage Martial Kizabiamongo.
C'est autour d'un repas de fraternité que plus d'une centaine de détenus de la prison centrale de Bounia ont célébré la journée internationale Nelson Mandela. Selon l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, cette journée spéciale a pour objectif de promouvoir la dignité et le bien-être des pensionnaires de cette maison carcérale. L'activité a ainsi permis de rappeler les valeurs défendues par Nelson Mandela, notamment les respect de la dignité humaine, les droits fondamentaux, la justice et la réinsertion sociale des personnes privées de liberté. Pour les directeurs de la prison centrale de Bounia, ces gestes donnent de l'espoir à ces milliers d'hommes et femmes privés de liberté. Le colonel Kabil Nzozi.
Ce qui est bénéfique pour les détenus, c'est les signes d'espoir. Parmi eux, il y a aussi des responsables quand ils vont quitter la détention pour les réinsertion.
Au cours de cette activité, les détenus ont aussi été sensibilisés aux mesures barrières contre Ebola et l'importance de la préparation à leur retour dans la communauté afin de valoriser leurs compétences et initiatives au profit de la communauté. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Et puis, rebondissement du dossier Assemblée provinciale dans le Congo central. Cette affaire a refait surface avec le rejet de la requête en rectification d'erreurs matérielles introduites par Victor Ntswami. La Cour constitutionnelle a en effet rejeté la demande de l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central qui contestait l'arrêt rendu public le 7 mai dernier. Dans cet arrêt, la Cour avait réhabilité Papi Mantezo Lodiantezoa à la présidence de l'Assemblée provinciale du Congo central et annulé les actes ayant conduit à sa destitution, estimant que ses droits de la défense n'avaient pas été respectés. Pour vous permettre de comprendre cette affaire à rebondissement, suivez ce reportage d'Élise Kavira.
Cette décision met fin au recours introduit par Victor Ntswami Mpaka devant la Cour constitutionnelle et confirme le retour de Papi Mantezolo à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central. Pour rappel, le 7 mai dernier, la Cour constitutionnelle avait annulé les actes ayant conduit à la destitution de Papi Mantezolo. Cette décision faisait suite à une crise au sein de l'Assemblée provinciale, marquée par des tensions entre son bureau et une partie des députés provinciaux. Ces derniers accusaient Papi Mantezolo de plusieurs irrégularités dans la gestion de l'institution, des accusations qui avaient conduit à sa destitution. Saisie une nouvelle fois dans ces dossiers, la Cour s'est déclarée incompétente pour examiner la demande. Elle a ainsi confirmé son précédent arrêt, rétablissant définitivement Papi Mantezolo Diatezoa comme président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Ils sont enfin de retour au bercail. Ils, ce sont 121 ressortissants congolais résidant en Afrique du Sud, dont des femmes et des enfants rentrés en RDC. En tout cas, c'est le premier vol de rapatriement volontaire affrété par le gouvernement congolais depuis l'Afrique du Sud. Pour rappel, cette opération fait suite aux violences à caractère xénophobe survenues les 5 et les 6 mai 2026 qui ont affecté plusieurs communautés étrangères, dont la communauté congolaise, explique les communiqués des affaires étrangères de la RDC. Mais comment en est-on arrivé à cette opération? Réponse avec Lievin Mbwinga.
Le 8 mai dernier, la ministre des Affaires étrangères a présenté à l'Assemblée nationale les mesures engagées par le gouvernement pour protéger et assister les compatriotes basés en Afrique du Sud. Thérèse Kayikwamba Wagner a ensuite porté la question devant le Conseil des ministres au regard de la dégradation de la situation. À la suite de cette communication, Madame la Première ministre a décidé de mettre en place une cellule de crise gouvernementale et de dépêcher une mission en Afrique du Sud afin de coordonner l'identification des ressortissants concernés et d'organiser leur rapatriement volontaire dans les meilleures conditions de sécurité, de dignité et de solidarité nationale. Selon le communiqué, l'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria a immédiatement renforcé son dispositif consulaire en activant une veille permanente des lignes d'urgence, des relais communautaires et des démarches diplomatiques auprès des autorités sud-africaines afin d'assurer la protection et l'assistance des ressortissants congolais jusqu'à leur retour au pays. Le document note également qu'à ce jour, 260 dossiers ont été validés dans le cadre de cette opération. Après vérification individuelle par les services compétents, 121 compatriotes ont été autorisés à embarquer à bord de ce premier vol à destination de Kinshasa.
Je le disais en titre, pas de rentrée scolaire sans paiement des arriérés. Au Nord Kivu, les inspecteurs de l'enseignement de la région de Beni, Butembo et Lubero ont tranché. Ils menacent de boycotter l'année scolaire 2026-2027. Réunis vendredi en assemblée générale à Butembo, ils dénoncent les non-paiements de leurs primes pour fonction spéciale ainsi que d'autres créances et donnent au gouvernement jusqu'à la fin des vacances pour régulariser la situation. Samuel Kakule Kombi, secrétaire provincial du syndicat national des inspecteurs du Congo, Sinieko de la région, explique au micro de Martial Papi Mukeba.
C'est depuis longtemps que l'inspecteur ne bénéficie pas de sa prime pour fonction spéciale. Les inspecteurs ont présenté des revendications, notamment des évaluations certificatives pour l'année passée, une affaire pétain à suspect, examen d'état. Les inspecteurs ont déjà travaillé, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien reçu du gouvernement. La prime pour fonction spéciale qui est jusqu'aujourd'hui discriminatoire. Une petite minorité reçoit ça. Et que personne n'ignore les conditions dans lesquelles nous travaillons ici au Nord-Kivu. Avec la guerre, il y a aussi la situation des frais de fonctionnement dans les poules primaires. Sur le listing, il est reconnu 600 000 francs depuis 2023 et jusqu'aujourd'hui. Il reçoit 175 000 francs. Où vont les restes? Qui les détourne? Au regard de toutes ces revendications, les inspecteurs à l'unanimité se sont désengagés à accompagner la rentrée scolaire 2026-2027. Si seulement si le gouvernement ne parvenait pas à payer rapidement avant de terminer les vacances.
Pour l'instant, nous n'avons pas encore obtenu la réaction de la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. L'actualité, c'est aussi cette descente surprise du chef de l'État vendredi sur différents sites situés le long du boulevard Lumumba dans les districts de la Tchango, là où les bâtisseurs de la nation du service national exécutent des travaux d'assainissement de Kinshasa à Massina Pascal, à des bonhommes comme à l'arrêt quartier Njili où il est passé. Félix Tshisekedi a salué le travail réalisé par ses ex-Kuluna quelques jours seulement après leur déploiement. D'autres détails avec vous, Benjamin Mudumbi.
Dans son adresse aux bâtisseurs du service national, le président de la République a affirmé qu'il venait palper du doigt leur action sur terrain. Je tiens à vous exprimer toute ma satisfaction et ma profonde reconnaissance pour le travail remarquable que vous accomplissez. Les résultats obtenus en si peu de temps témoignent de votre engagement, de votre sens du devoir et de votre amour pour la nation, leur a-t-il déclaré. Le chef de l'État a promis aux bâtisseurs l'amélioration de leur salaire ainsi que de leurs conditions de vie. Il leur a recommandé de continuer à travailler avec assiduité en respectant les instructions de leur commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, afin de revêtir la ville de Kinshasa de sa plus belle robe d'antan, celle de Kin la Belle.
Retour sur les rues de Bumba. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. La RDC veut en effet faire du riz local un levier de développement économique et un pilier de sa souveraineté alimentaire. Pour y parvenir, le gouvernement, via le ministère de l'Économie nationale, a lancé le projet Riz Bumba Losonabiso. Objectif, augmenter la production, créer des emplois et améliorer les revenus des producteurs. Derrière ces projets, la société Rizicole de Bumba, une filiale dont Plantation et Huilerie du Congo est l'actionnaire unique. Mais seulement voilà, depuis plusieurs années, cette société a connu un effondrement total de la filière Rizicole. Les riz locales a disparu des étals, laissant les champs libres aux importations. État des lieux de la société Rizicole de Bumba avec Askin Zigibatayoro. Suivez.
Selon les opérateurs économiques de Bumba, le délabrement des infrastructures est l'une des causes majeures de cet effondrement. L'état désastreux de routes de dessertes agricoles a rendu l'évacuation et la commercialisation de la production très coûteuse. Résultat, les grands acheteurs ont fini par se détourner de la filière. Des commerçants de la ville citent notamment des entreprises comme Sibé Zahir du défunt Jeannot Bemba Saolona ou encore la société Noguera qui étaient des grands acheteurs de riz local. Leur désengagement a privé les paysans de leurs principaux débouchés. À cela s'ajoute la disparition du soutien institutionnel. Aujourd'hui, les services publics de l'agriculture n'encadrent plus les producteurs comme ils le faisaient par le passé. Autre obstacle de taille, les conflits armés successifs à partir de 1996 ont profondément désorganisé la filière. D'après nos sources, la production a chuté de manière spectaculaire, passant de plus de 500 000 tonnes par an à seulement 85 000 à 110 000 tonnes. Mais bonne nouvelle, la société Rizicole de Bumba renaît cette année. Dans le cadre du projet Ribumba Losonabiso, elle attend relancer la filière et corriger les erreurs du passé. Un défi de taille, mais un espoir pour toute une région.
L'électrification du Kasaï central, bientôt une réalité avec la chute Mbombo. Nous en voulons pour preuve la signature du contrat entre les fonds de promotion de l'industrie et l'Agence nationale d'électrification en milieu rural et périurbain, en serre vendredi à Kinshasa et ce projet donne naissance à la société Hydro-Mbombo SAS pour la gestion de la centrale hydroélectrique avec une production de 20 MW. D'autres détails avec Gloriane Lepeya.
Implantée sur la rivière Lulua, à 15 km de Kananga, l'infrastructure est pilotée par l'ANSER et portée par la volonté du président de la République d'électrifier les différentes provinces pour favoriser les investissements et les développements du pays. D'après le directeur général du FPI, Hervé-Claude Batukonke, Mbombo est un projet à vocation industrielle et sociale pour une production de 20 MW. L'ouvrage comprendra les barrages, une base vie, deux voies d'accès et tous les réseaux d'évacuation de l'énergie vers Kananga, dont les lignes de transport, les postes et les stations de distribution. Avec ces barrages, Kananga et sa périphérie sortiront d'un taux d'électrification inférieur à 1%. Sur le terrain, les études de faisabilité financés par l'ANSER sont presque terminés. Le 23 janvier 2025, le gouverneur du Kasaï central a remis le droit des terres au chef coutumier du village Tibambula pour engager les terrassements sans heurter les divinités ancestrales. La population, appelée à s'impliquer dans la réalisation du chantier, garde les yeux rivés sur ces projets.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, les violences xénophobes se poursuivent. Cette semaine, de nouvelles marches se sont transformées en chasse aux étrangers avec violence, intimidation et arrestations arbitraires. Plusieurs dizaines de milliers de ressortissants étrangers ont déjà fui le pays. Un immense camp de réfugiés a été installé au nord du pays pour coordonner les rapatriements. La plupart sont originaires du Malawi. De retour dans ces pays, dans leur village, ils témoignent du climat de violence croissant en Afrique du Sud.
L'invité.
Notre invité est Maître Soudi Alimasi Kimputu. Il est juriste et spécialiste des questions de gouvernance locale. Avec lui, nous allons parler du fonctionnement des entités territoriales décentralisées, de leur rôle dans le développement local, ainsi que des défis auxquels elles sont confrontées. Maître Soudi Alimasi Kimputu s'entretient avec Élise Gavira.
Monsieur Soudi Alimasi Kimputu, bonjour.
Bonjour, Madame la journaliste.
Comment définissez-vous la décentralisation et comment s'applique-t-elle?
Je ne voudrais pas entrer dans des définitions académiques ou doctrinales, mais je préfère utiliser des définitions simples, une petite définition simple, pour que nous puissions nous faire comprendre par tout le monde. Et la décentralisation, c'est le fait pour le pouvoir central de transférer une partie de ses compétences aux autres entités ou aux entités inférieures au niveau du fonctionnement d'un État. Alors, de manière générale, la province joue le rôle de supervision et de coordination de l'action de l'État au niveau de sa circonscription. Et le territoire, qui est une entité déconcentrée, a pour rôle principal de mener des inspections au niveau des entités territoriales décentralisées, donc au niveau du secteur, mais aussi le territoire a un grand rôle d'appui-conseil au niveau des entités territoriales décentralisées. Mais s'agissant du secteur qui est le même niveau que la chefferie, c'est une entité territoriale décentralisée, qui a une autonomie administrative, une autonomie financière, qui a ses ressources propres et qui peut bénéficier des ressources issues des recettes à caractère national qui sont produites aussi au niveau de son entité, donc au niveau du secteur. Les secteurs, à l'instar des autres entités territoriales décentralisées, c'est le niveau de base qui est le pilier du développement de notre pays. Si toutes les choses s'appliquaient normalement, si au niveau du secteur de la chefferie de la commune, que l'on devait asseoir notre développement. Parce que c'est l'instance qui est en contact direct avec la population, c'est l'instance qui est censée gérer les besoins sociaux de base de la population.
Puisque nous nous intéressons particulièrement au secteur, quelles sont les missions des secteurs et des chefferies dans la gestion locale et le développement?
Les secteurs et les chefferies ont des missions énormes. Tout ce qui est question de l'amélioration de l'habitat, la sauvegarde du patrimoine, l'entretien des réseaux routiers, la gestion des domaines, la protection de la faune flore rentrent toujours dans leurs attributions. Et je vais ajouter en disant que le chef de secteur ou le chef de chefferie est effectivement officier d'état civil. Ça veut dire que il peut célébrer un mariage
parce que la loi lui reconnaît possibilité. Et les secteurs de la chefferie sont des entités décentralisées. Ça veut dire ils ont l'autonomie administrative, ils ont l'autonomie financière, ils ont la libre administration, ils ont la personnalité juridique, ils peuvent rester en justice contre la province et même contre le pouvoir central. En cas de divergences sur certaines questions qui relèvent de la loi et de la constitution.
Et dans tout ça, quel est le rôle de la direction provinciale des recettes?
La direction provinciale des recettes, elle ne peut percevoir que les recettes qui relèvent de la compétence de la province. Chaque entité territoriale décentralisée a ses finances et les responsables en répondent devant les institutions compétentes chargées de contrôle et de suivi. Donc si aujourd'hui une régie provinciale va collecter au niveau des secteurs et des chefferies les recettes qui relèvent des attributions des secteurs et des chefferies, c'est un détournement des deniers publics.
Après plus de 15 ans de décentralisation en RDC, pensez-vous que les objectifs sont atteints?
À ce jour, je peux dire que les objectifs de la décentralisation ne sont pas atteints. Vous savez, dans tout processus de décentralisation, il y a toujours cette tendance de rétention des compétences transférées. Malheureusement, nous en sommes arrivés là. Le pouvoir central refuse de finaliser les transferts de compétences et de ressources, à la fois financières, humaines et matérielles. Ça n'a pas été fait. Les provinces à leur tour, qui devaient faire la même chose au niveau des entités territoriales décentralisées, refusent de le faire. La tendance aujourd'hui est de rentrer dans la centralisation totale. Et je pense que pourront, à un moment donné, s'y ressaisir, afin que nous puissions revenir sur le processus de décentralisation qui est en train de mourir à petits pas.
Monsieur Soudi Alimassi Kimputu, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'était notre invité, Maître Soudi Alimassi Kimputu, qui s'entretenait avec Élise Kavira. Et c'est ce qui met fin à ce journal Parler du Matin, préparé pour vous par Lievin Bouingavoubou et Jean-Désiré Kanyama, et mis en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanamakengonchalo. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.